Mais bonsoir.
Bonsoir.
Donc bienvenue, c'est moi qui fais l'introduction, donc bienvenue chez Mola au 91 rue Porte d'Ijoux. Donc voilà, Jean-Louis Duzer et moi-même, Ludovic Potier, nous venons vous présenter donc ce livre Balada Flamenca, vous dire un petit peu comment ce livre a été conçu, comment nous l'avons fait ensemble, comment on en est arrivé jusque-là, à ce bébé de 1,2 kg à peu près. Et puis, normalement, il devrait y avoir des lectures. Voilà, je lirai quelques textes. Certains sont dans ce livre, d'autres sont des textes qui seront publiés un peu plus tard chez un autre éditeur. Et normalement, nous devrions avoir la chance d'entendre quelques falsettas, quelques rasgueos, puisque Tony Hernandez, qui est un guitariste gitan qui habite en haut de la côte des quatre pavillons, devrait nous faire le plaisir et l'honneur de toucher la guitare pour nous. Voilà, je laisse la parole à M. Jean-Louis Duzer, qui est à l'origine de ce projet, puisque en fait, il m'a demandé de participer à ce projet. Et il va vous raconter pourquoi il a eu ce projet.
Oui, bonjour, bonsoir, messieurs, dames. Alors, d'abord, on va commencer par se présenter. C'est la moindre des choses. Moi, je suis reporter photographe de métier. J'ai travaillé pendant 38 ans au journal Sud-Ouest sur des différentes affectations, Bordeaux, Libourne, Bordeaux, les Landes, et j'ai terminé dans les Pyrénées-Atlantiques. Il se trouve que dans les premières années où je suis arrivé à Mont-de-Marsan, a été créé le Festival d'art flamenco de Mont-de-Marsan, qui est un des festivals les plus importants au monde, et ça je peux vous le garantir, puisque moi je circule, je vais de festival en festival. Et il se trouve que la même année a été créée de la création de ce festival, je suis arrivé à Mont-de-Marsan. Donc la première année découverte en pointillé de cet art, qui finalement, je ne comprenais pas grand-chose, j'avais quelques difficultés à entrer dedans. Bon, la seconde année, second festival, donc là j'ai dit, il faut que je me mette à travailler un peu, lire, comprendre qui sont ces gens. Et il se trouve que sur ce festival 1990, un événement exceptionnel s'est produit, c'est-à-dire que Cameron de la Isla, qui devait venir se produire, est arrivé à 2h du matin, alors que tout le monde était reparti, voilà. Et il se trouve que ce jour-là, il y a eu un concert absolument exceptionnel, et pour moi, c'est le départ dans le monde du flamenco. Pourquoi ? Pour deux choses, parce que quelque chose s'est passé ce soir-là, et en plus, par ma curiosité professionnelle, j'avais remarqué que Cameron avait un tatouage sur la main. Et j'ai dit que je vais faire une photo de cette main, et demain à la grandisseur je regarderai exactement ce qu'il y a. Et il se trouve que cette photo a été mon passeport pour entrer dans le monde du flamenco. Voilà, cette image c'est ma référence. Partout où je vais, j'étais encore à Séville il y a 4 jours, c'est Jean-Louis qui a fait les photos des mains de Cameron, voilà, qui m'a ouvert une grande porte. En plus, ce jour-là, grande chance, Ludo était là, lui aussi commençait à errer dans les bars, puisqu'on était très déçus de ne pas avoir vu Cameron.
J'erre dans les bars.
Oui, nous errons.
Pas que le soir de Cameron.
Voilà. Et donc, après ce rassemblement quasi général, parce que les gens étaient quand même restés sur place, on a assisté à un concert magnifique. Et depuis, avec Ludovic, nos chemins se croisent. Et le Conseil général des Landes m'a demandé, a voulu, que je fasse une grosse exposition sur mon travail pendant 20 ans, à travers tous ces gens, les endroits où j'ai découvert le flamenco et tout ça. Et ils ont fait et ont aidé à l'aide d'une édition du livre. Voilà. Et donc, voilà, tout est parti de là. Maintenant, comme je suis à la retraite, je n'ai eu aucun problème pour faire cet ouvrage et puis cette exposition, qui est une très grosse exposition de 70 photos, qui s'en va d'ailleurs, là, elle est au Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et s'en va au Festival de Nîmes en janvier, au Carré d'Art, elle sera exposée pendant tout le festival. Donc, à partir du moment où on a décidé de faire ce livre, j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé à peu près 10 000 négatifs et photos scannées, il a fallu faire des tris, et j'étais à Séville en train de continuer à m'imprégner du flamenco, et un jour j'ai téléphoné, j'ai dit « Ludo ». En plus, bon, ça faisait un moment qu'on avait envie de faire quelque chose tous les deux. Ludo travaille et écrit et fait des poèmes, fait plein de choses importantes dans le monde hispanisant. Hein. Et en plus, il a une rubrique à la radio campus, à Radio Campus à Bordeaux, hebdomadaire, c'est ça, hein, oui. Hebdomadaire, qui s'appelle Falsetta. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, Ludo, est-ce que tu es d'accord pour qu'on démarre là-dessus ? Ça n'a pas été facile à faire, mais voilà le départ.
Voilà, mais je vais me présenter aussi. Donc, je suis Ludovic Potier, je suis enseignant à l'école primaire Georges Lègue de Pessac, je vais carrément donner. Voilà, et voilà, je suis aficionado au flamenco depuis très très longtemps. Quand on parle de 1990, c'était même antérieur. Un jour, j'ai acheté un disque vinyle, plus pour la pochette, parce qu'il y avait un très très beau dessin d'un picador de Picasso sur cette pochette, et j'aimais ce dessin. Et puis, c'était donc à l'époque du micro-sillon, comme on disait, et j'ai posé le bras sur le vinyle, et les premières notes ont commencé à s'égrener. C'était un cantaur qui s'appelle Jacinto Almeden, qui a, on va dire, pris la parole. Et voilà, ce jour-là, je suis tombé dans le puits du champ profond, et je n'en suis jamais ressorti. Voilà. Et voilà, c'est comme quelque chose qui se déroule en permanence, et voilà, je suis heureux d'être tombé là-dedans et de m'y être noyé. Voilà. Donc, oui, alors, donc depuis, ben, entre-temps, voilà, on le disait hier sur la radio, le flamenco, c'est d'abord une école d'humilité au niveau de l'apprentissage, même quand on est ce qu'on appelle aficionado, c'est-à-dire passionné, en fait, hein, amateur éclairé. Alors, en flamenco, on dit cabales, mais quand on commence à savoir un peu, mais pour savoir même un peu, il faut beaucoup écouter, beaucoup discuter avec les plus anciens, avec ceux qui savent. Il faut passer des nuits entières autour du flamenco, voilà, hein, dans les juergas, c'est-à-dire dans les fêtes, parce que des fois, ça peut... Il y a le spectacle est donné, mais le vrai chant, le vrai flamenco commence après, en fait, quand ils se retrouvent entre eux pour boire un coup, pour manger, etc. Voilà. Donc tout ça, il faut l'entretenir, il faut être patient pour pouvoir accéder au code de ce monde-là. Mais par contre, c'est pas non plus le fond de la mine, hein. C'est quand même très, très passionnant, intéressant, joyeux, triste aussi des fois. Et en tout cas, c'est un monde vraiment, vraiment particulier, vraiment à part, qui m'a de suite accroché. Et puis, j'avais voulu en parler de plusieurs façons. Donc, je me suis engagé dans certaines peñas flamencas, que ce soit sur Toulouse, Biarritz ou après à Bordeaux. Voilà, il y a la radio d'un côté, et puis il y a aussi l'écriture. Alors, je n'écris pas que sur le flamenco, mais le flamenco irrigue quand même beaucoup mon écriture. Et quand Jean-Louis m'a proposé ça, ben j'ai dit tout de suite d'accord, puisque j'avais déjà toute une série de textes. La problématique, ça a été comment... Parce qu'en fait, il dit que c'est vrai qu'on s'est croisés énormément. Alors, il y a cette fameuse nuit de Camalon que je relate, hein, dans le bouquin. Voilà, je raconte comment moi, je l'ai vécu. Mais après, nos chemins, effectivement, se sont croisés. Mais pas forcément, on n'était pas forcément aux mêmes endroits. On a vu peut-être les mêmes gens, mais pas forcément aux mêmes endroits. Lui, il a beaucoup, beaucoup écumé l'Andalousie. Moi, bon, une époque aussi, j'y suis beaucoup allé. Mais je suis, par exemple, allé beaucoup, énormément, peut-être même plus, à Madrid. Savoir que Madrid, c'est un centre très important pour le flamenco. Et donc, j'ai réussi, enfin j'espère en tout cas, avoir réussi à coudre un texte qui est comme une espèce de fil rouge, en fait, au travers de ces photos, de ces 20 ans de compagnonnage avec le flamenco. Et puis, de temps en temps, il y a 9 ou 10 arrêts qui sont des fragments comme ça, qui racontent soit un lieu, soit un moment, comme la nuit de Camaron à Mont-de-Marsan, soit qui parle d'une figure, d'une personne. Et là, c'est une écriture plus personnelle et plus poétique. Le reste du fil rouge, ce n'est pas du tout didactique. Hein, c'est pas, je ne voulais absolument pas écrire une nouvelle fois une histoire qui raconterait un petit peu voilà, le flamenco, l'étymologie, ça a commencé à telle époque. Et à telle époque, il y a l'époque de Franco Nitti, les Café Cantantes. Et puis après, il y a l'opéra flamenca. Et puis ensuite, vient Mairena. Non, ce n'était pas du tout mon propos parce que d'autres l'ont déjà fait et le font beaucoup mieux que moi. Mais ça me semblait intéressant d'essayer, donc je me répète, de coudre mon envie d'écrire sur le flamenco avec les photos de Jean-Louis. Et de temps en temps, dans la confection de l'ouvrage, je m'arrête et je livre un peu plus à travers des gens auxquels j'ai pensé quand j'ai écrit ces textes-là, ou des moments que j'ai vécu forts, ou des endroits, des lieux qui me sont chers, liés donc au flamenco. Et cela, c'est une écriture effectivement plus personnelle, plus poétique. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout pour l'instant ce que je voulais dire. Voilà. Et voilà.
Bon, alors le travail a été... Pourquoi Balade à Flamenca? Voilà, Balade à Flamenca, parce que c'est un cheminement exhaustif qui permet de mettre dans cet ouvrage un peu tous mes coups de cœur et tous mes véritables rencontres. J'ai des personnages, j'ai des endroits qui m'ont fait avancer dans ce monde-là. Les spectacles, évidemment, mais pour moi, c'est plus facile parce que j'ai été très vite accrédité par les différents festivals. Je suis le photographe officiel du Festival de Nîmes, qui est devenu un très grand festival, on peut dire, à égalité avec le Festival de Mont-de-Marsan. À l'heure actuelle, à part la Biennale de Séville, je pense que même Rérès, le Festival de Rérès, c'est essentiellement de la danse, tandis que les festivals que l'on a à Mont-de-Marsan et un peu plus à Nîmes tirent plus vers le cant, voilà, c'est-à-dire vers l'essence profonde des bases du flamenco. Alors bon, à partir de là, ma démarche a été de les rencontrer chez eux, c'est important. Évidemment, les fêtes ont existé, ou elles n'ont pas existé. Il y a eu des moments, je vous donner un exemple qui n'est pas vieux, c'était samedi soir à Séville, 3h du matin, au Montecillo, qui est le à Triana à Séville, qui est le bar référence pour le monde flamenco, jusqu'à 1h30, 2h du matin, rien, on était là, on a bu un pot, deux pots, discuté, est arrivée Maite Pulpón, qui est la femme du grand Pulpón, qui a été le premier grand impressa et qui a exporté tous les flamencs au Japon et un peu partout en France et un peu partout. Et à 3h30, la fête a commencé. Voilà. Ils sont arrivés, ils venaient d'enregistrer des contes et des chants pour Noël. Et donc, voilà, la fête, moi je suis parti, mais je sais qu'à 6h du matin, rien n'était fini. Et voilà. Et ces moments-là, on les attrape ou on ne les attrape pas. Hein. Il y a des moments, on dit le flamenco, les gens disent « Ah ouais, mais c'est ça, il ne se passe rien, comment, pourquoi ?» Mais c'est de l'imprévu, c'est la fête de famille, c'est la fête entre amis. Voilà, la scène vient pour moi après. C'est là que j'ai découvert la profondeur du flamenco. Ces gens qui se réunissent, ces familles, ces tribus, hein, parce que bon, j'ai rencontré aussi beaucoup de grandes familles du monde du flamenco, hein, qui sont bon, les Peña, les Farruco, les Montoya, qui m'ont permis de rester avec eux et de vivre des choses très, très grandes. Hein, voilà.
Vous avez vu, il s'ennuie à la retraite. Hein. Dimanche dernier, il était à Séville, après à Badajoz. Hein. Alors, c'est le lundi, de 22h à 23h, et c'est la fréquence, c'est 88.1. C'est une heure consacrée au flamenco, donc je traite ça sous forme simplement de ça dépend, il y a l'émission peut être consacrée à des noticias, des nouvelles du mundillo flamenco, mais je fais aussi quelque chose que j'appelle la Baraca del Luende, en hommage à Lorca. Et en fait, je lis des textes, mais ça peut être d'une recette de cuisine ou un texte de Pascal Quignard, je pense, parce qu'il est dans un autre salon, là, un peu plus haut. Mais entre ces textes-là que je lis, je passe du cante, voilà, je passe du chant. C'est parce que je trouve que c'est un bel hommage d'entendre des lettrés, des gens qui qui sont de la littérature, mais aussi la recette de cuisine, c'est aussi de la littérature. Hein. Et puis de passer une siguería d'Agujetas en sachant qu'Agujetas ne sait pas lire, par exemple. Voilà. Enfin, il est voilà. Mais c'est un grand poète, hein. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Je trouve que de les faire... je ne le dis pas, ça, hein, à l'antenne. Les gens ne le savent pas forcément. Hein, pour moi, c'est très important. Parce que je trouve qu'il y a une puissance, il y a une puissance évocatrice qui est du même niveau. Voilà. Alors qu'on est avec des gens qui ont des parcours complètement différents, mais atypiques aussi, l'écrivain et le chanteur. Voilà, nous venons d'accueillir... Tony Hernandez. Voilà. Voilà, tocaor de prestige et de renom, et qui sera à la Peña Flamenca Copas y Compas vendredi prochain pour un tablao flamenco en compagnie de l'Animeña, qui est une bailaora qui vient de Toulouse, accompagnée donc à la guitare par Tony, au chant par José de la Manuela et au cajón par Paco Ruiz, voilà, de Toulouse aussi. Et c'est à la Peña Copas y Compas qui se trouve rue comment s'appelle, la rue qui monte là, ça y est, je perds la rue Georges Bonnac, voilà, pas très loin, juste avant le bistrot du sommelier là. Il y a une académie de billard et en fait on rentre dessous, c'est là.
Est-ce que c'est l'ancienne Movida?
Tout à fait, c'est l'ancienne Peña qui s'appelait autrefois Movida. Voilà, c'est Copas y Compas maintenant.
Il est évident que le flamenco est en train de bouger énormément. Mais pas seulement en France. Il y a des festivals qui sont en train de se monter un peu partout, en Europe. Il y en a un qui est à Rotterdam et Amsterdam. Il y en a un autre à Genève. Il y en a un qui vient de se créer à Dublin. Mais des festivals d'une semaine, avec des stages, avec... les États-Unis sont en train de démarrer, en particulier la Californie. Et bon, on ne parle pas du Japon, parce que le Japon, par rapport au flamenco, c'est quelque chose à part. Si vous voulez, les premières personnes qui ont fait venir le flamenco, c'est les Japonais. D'ailleurs, si vous allez si vous promenez à Séville dans les cours des grands maîtres de danse et de chant, vous verrez que la moitié des stagiaires sont des Asiatiques. Hein. Voilà, c'est... Ah oui, c'est. Mais moi, j'ai demandé et j'ai eu quelques informations par rapport aux arts martiaux. Dans la gestuelle, il y a ça qui. Mais c'est une des. Voilà. Voilà, parce que bon, j'avais parlé justement avec Manolo Marín, qui est un des grands maîtres de la danse flamenca, et qui m'a dit, mais oui, Jean-Louis. Voilà, c'est une des explications qu'il m'avait données.
Alors, les festivals se développent, sont de plus en plus importants, vont de plus en plus loin. C'est important, mais c'est très, très important d'aller justement aussi dans les festivals et dans les peñas. Hein. C'est là que se fomente la fission et c'est là qu'on touche peut-être au plus près de l'âme flamenca, c'est dans les peñas. Alors, la peña dont on parlait, qui est ici à Bordeaux, elle est vraiment... légale des peñas qu'on peut trouver en Espagne un peu partout. Hein. D'ailleurs, il y en a énormément en Andalousie, il y en a énormément à Madrid, il y en a énormément sur la ceinture aussi, la périphérie de Madrid, mais il y a des peñas flamencas dans les Asturies, il y a des peñas flamencas du côté de Bilbao, des peñas flamencas bon, à Barcelone évidemment, puisqu'il y a quand même une immigration andalouse assez importante, donc il y a des grands cantadores comme Duquende, par exemple, ou de grandes danseuses comme l'été, ça y est, je perds le fil, je pense à autre chose en même temps, Carmen Amaya, donc c'est quelque chose d'extrêmement présent en Espagne, mais c'est vrai qu'il y en a une aussi à Utrecht, il y a une peña flamenca à Lille.
Et à l'heure actuelle, il y a un phénomène qui se passe en particulier sur Paris. Tous les spectacles flamenco, et il y en a énormément, sont pleins. Il y a 3 semaines, un mois, j'étais au Bataclan. Il y avait Rancapino et Tomatito. C'était archi plein. Ils ont refusé du monde. Le festival du Palais de Chaillot, c'est plein dès les premiers jours de location. Ils ont fait les rues de la Villette cette année, qui ont été un gros, gros succès. En plus, Flamenco France a changé de tête et il y a une équipe jeune qui travaille beaucoup sur tout le monde flamenco de la grande ceinture, et ce qui fait que il y a un spectacle de flamenco à l'heure actuelle, un par semaine. En ce moment, il y a Cristina Hoyos qui était pendant une semaine, je crois. Hein, bon, voilà, on découvre. Bon, et en plus, on a des petits festivals. Il y en a à Toulouse, il y en a. Moi, on m'a demandé l'autre jour, Rivesaltes, il y a Béziers.
Villeurbanne.
Ouais, voilà, il y a tout un tas de petits festivals qui se montent et puis qui commencent à prendre du ventre et à exister. Ne me regarde pas.
Tu pourrais me regarder aussi, donc.
Voilà, donc on sent vraiment qu'il y a, ça avance. Voilà.
Alors, cet engouement avait déjà eu lieu du temps, enfin en 80, je vais, 92, hein, quand Séville, avec l'expo de Séville, etc. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que le cante, le toque, le baile flamenco ne sont pas non plus en France là par hasard, puisque nous avons depuis fort longtemps une immigration espagnole qui a alimenté, irrigué tout ça. Donc, voilà, il y a des grandes familles gitanes dont est issu Tony, il y a des grandes lignées qui ont donné et qui donnent des chanteurs, des danseuses et des guitaristes absolument extraordinaires et fabuleux, et qui font que voilà, ça a pu aussi se développer, parce que les peñas dont on parle, elles n'ont pas forcément les moyens de faire venir une grande figure, ou pas grande figure, mais en tout cas de faire venir quelqu'un du fin fond de l'Andalousie. Puis certains ne se déplacent pas. Hein, on est face à des gens d'un archaïsme qui, moi, me plaît beaucoup, mais pour leur faire prendre l'avion, des fois, non, c'est pas possible. Voilà, donc, tous ces grands artistes français, nés de ce côté-ci des Pyrénées, mais avec des familles venues, l'histoire espagnole, on la connaît, elle est complexe et chaotique. Donc du coup, on connaît les foyers d'immigration espagnole dans toute la France. Et forcément, on comprend pourquoi il y a effectivement une peña flamenca à Lille, pourquoi il y a une peña flamenca à Bruxelles, par exemple, pourquoi il y a du flamenco un peu partout. C'est grâce à toute cette immigration extrêmement forte, avec une identité puissante, et grâce, je le répète, à des artistes issus de grandes familles, de grands artistes, que tout ça perdure et se propage. Voilà. Mais par rapport à Bordeaux, il y a quelqu'un qui s'appelle François Guerrero va sortir, ou est en train d'essayer de sortir, un livre sur l'histoire du flamenco à Bordeaux. Et vous avez tout à fait raison, François, que j'avais reçu dans Falsetta, me racontait que les 3 tablaos dont vous parlez étaient ouverts pratiquement tous les soirs, et ils étaient pleins les soirs où ils étaient ouverts ensemble, ils étaient pleins dans les 3 endroits. François a une explication. Il dit aussi qu'il a une explication sur pourquoi petit à petit ces établissements ont fermé. Pourquoi lui dit qu'il y a eu un petit rejet d'une certaine génération, des plus jeunes, qui sont plus allés vers le rock, vers la pop, etc. Mais ces populations-là, ensuite, ont eu besoin de revenir à leurs racines. Et du coup, il y a de nouveau un engouement, etc. Je parle de l'immigration espagnole en général. Chez les familles gitanes, évidemment, ça s'est toujours perpétué. Hein. Vous parliez des Utreras, mais les Arenas du côté de Langon, etc. Donc voilà. Voilà. Mais tout ça pour dire que ce livre, alors Fédération Française de Flamenco, c'est comme ça que François, il a un site comme ça. Allez-y, parce que je crois qu'il m'a montré, il y a une iconographie absolument extraordinaire. Hein, il est allé chercher et retrouver des choses fabuleuses au niveau iconographie. Mais je crois qu'il a il a un peu de mal à l'éditer, et donc il faudrait peut-être lui donner un petit coup de main. Voilà comment faire repartir la machine. Il faut savoir qu'à Bordeaux, pendant quelques années, il y a eu un festival flamenco, hein, très important. Hein. Voilà. Et puis aujourd'hui, vous avez une La Peña Copas y Compas, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui est vraiment dans l'esprit Peña. Il y a d'autres académies de baile. Hein, vous avez ici Concha Castillo, mais vous avez beaucoup d'académies de baile, de cours de danse qui sont... Pardon. Rincon Andalus à Florac. Voilà, il y a énormément de choses. Moi, je crois qu'il faut utiliser un outil qui s'appelle Internet, marquer Flamenco Bordeaux, et vous allez avoir toute une série d'endroits où vous pouvez effectivement... Mais effectivement, peut-être qu'il manque un lieu qui pourrait un peu réunir tous ces gens-là, où effectivement, et le chant, et où la juerga en tout cas serait plus que bienvenue. Ça se passe un peu à la Peña Copas y Compas, mais ils n'ont peut-être pas les reins non plus assez solides pour en faire de façon très très régulière. Hein. Et puis c'est une asso, mais effectivement un véritable endroit comme un vrai tablao avec un bar, etc. Ça manque à Bordeaux, et effectivement ça pourrait se faire. Alors après, où ? Dans ces endroits, eh bien, il suffit de vous taper sur Internet, voilà, et puis ensuite vous y rendez et vous devenez membre de l'association. Voilà. Par rapport à Triana, Triana, aujourd'hui, il faut savoir que dès les années 70, hein, Triana a été vidée. Hein, de sa communauté gitane, hein, on les a mis à l'encan. Alors ça s'est accéléré avec l'expo de 92. Alors quand on lit encore des livres édités aujourd'hui, il dit Triana, le quartier des gitans, non, il n'y a plus de gitans à Triana.
C'est terminé. C'est
les bobos sévillans qui habitent là, voilà. Mais bon, c'est l'histoire perdure. Je le dis ça dans le bouquin. À un moment donné, j'en parle. Ce qu'on appelle la 3000. Hein, voilà, ce sont pas des...
Le flamenco est un peu sorti de Séville. Hein.
C'est le flamenco des barres d'HLM, hein. C'est dur là-bas, quoi. Hein. C'est très, très dur. Hein.
Le flamenco est un peu sorti de
Séville. Mais ils sont... C'est là aussi que viennent les futurs grands du canté, du baile et de la guitare, dans cet endroit qu'on appelle la 3000. Donc l'histoire continue, mais effectivement, c'était beaucoup plus sympathique et joli quand ils habitaient à Triana, même si Triana était un quartier à part de Séville et que les Sévillans ont toujours regardé Triana un peu de haut. Et il y a une copla qui dit de Trianeros, qui dit, je vais dire directement en français, regarde si je suis Trianero, si je suis Triana, c'est quand je me balade à Calle Sierpes, c'est-à-dire une rue qui est en face de l'autre côté à Séville, je me sens étranger.
Oui. Exceptionnellement, vendredi soir, on est arrivé sur la petite place de Triana, là, à côté du Monte Triana. On a trouvé Lol, Emmanuel et son frère qui étaient là. On a dit, tiens, c'est pas vrai, cette place est en train de revivre, ils sont là, ils étaient bien, les autres sont arrivés, mais bon, c'est très rare. Bon, j'ai mon ami José qui est là dans la foule. La foule qui erre dans les rues de Triana depuis quelques années et où nous nous croisons assez souvent. C'est vrai que sur Triana, alors il y a un renouveau qui est en train de se produire.
Il y a la Carboneria aussi à Séville, ouais. qui a été un lieu très important, lieu politique aussi, hein, de contestation.
Ouais. Mais là ils ont refondé un peu Triana, ils ont fait des rues piétonnes et il y a une vie qui est en train de se remettre à... Les bars se réouvrent, Alfonso Diria et tout ça aussi. Bon, on a quand même Alameda aussi qui, qui recommence à bouger, hein, c'est vrai. Mais bon, Jerez, c'est autre chose.
Voilà, Jerez aussi, voilà, alors, énormément de peñas, voilà. Peña La Bolería, Los Cernicalos, tout ça,
on
énormément.
On rencontre plus de...
Mais par exemple, un endroit où vous pouvez aller qui est moins loin et qui est extraordinaire pour le flamenco, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Madrid. Madrid, vous avez des peñas, vous avez... sur toute la ceinture, qu'on appelait la ceinture rouge de Madrid, mais c'est extraordinaire, quoi. À Vallecas, etc. Mais il y a des festivals, il y a des peñas avec des vrais cabales qui, je le raconte là-dedans, hein. Alors cette peña n'existe plus, ça s'appelait la peña Chaquetón, c'est Calle Legazpi à Madrid, qui est un vieux quartier ouvrier de Madrid, et on arrivait là en tram ou en bus, et puis on descendait quelques marches, c'était enfumé, puisqu'on pouvait beaucoup fumer, ça fumait beaucoup à l'époque, hein. Et puis on s'asseyait, et puis tout d'un coup, il y avait le guitariste maison, qui s'appelait El Mami, qui faisait un peu quelques accords, là, et puis le type à côté de vous se levait, il se lève, il va s'asseoir en face de vous sur la chaise en osier, là, et puis il chante 2-3 campés. Et ce type, il revient s'asseoir à côté de vous. Un chant de pas beaucoup de facultés, pas des voix extraordinaires, souvent sans micro, mais d'une qualité, d'une profondeur. C'est quelqu'un qui sait, voilà, c'est un cabal, c'est quelqu'un qui connaît le flamenco, qui peut chanter. Voilà. Et des endroits comme ça, il y en a encore à Madrid énormément. Ouais. Il y en a, il faut les chercher, il faut les trouver, mais aujourd'hui, avec Internet, on... Pareil, tapez flamenco, Madrid, vous allez avoir. Alors vous avez aussi les endroits touristes, hein, ça, oui, hein, les tablaos à touristes, hein, qui étaient autrefois de grands tablaos, hein, de la grande époque de Caracol et tout ça. Mais il y a ça aussi, il faut pas se laisser trop avoir. Mais il y a des spectacles de qualité aussi, même dans les endroits touristes. Hein, la Carboneria, par exemple, est dans tous les guides, mais c'est un endroit où on peut y voir des choses extraordinaires.
Ça a été un des endroits les plus authentiques du flamenco. Il y a d'ailleurs un cartel d'une soirée à la Carboneria. On va vous lire les noms des gens qui y étaient, quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, dans le cartel, vous aviez Camarón de la Isla, Librirano, El Cabrero, José de la Tomasa, Chocolate, Rancapino, Fernanda de Utrera, Manuel Molina, après j'arrive pas bien à lire, excusez-moi, je me fais opérer demain matin, vas-y, continue à lire, j'ai un problème de cataracte.
Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes. Non, ça devient illisible après Rancapino.
Voilà. Voilà, c'était,
à la famille, c'est, à la famille c'était le, Hernandez, tu vois.
C'était le cartel de la Carboneria. Alors, la Carboneria a eu une spécificité, ça a été un des hauts lieux de la résistance. C'est-à-dire que les rassemblements politiques se faisaient à la Carboneria et de la manière dont c'est composé, comment les salles sont faites, suivant qui arrivait, il y avait un cant qui partait. Et les gens savaient que bon, il fallait se disperser, sortir de l'autre côté, et voilà. Ça a été... Et Paco Lira, qui est vraiment très très vieux, que j'ai vu encore la semaine dernière, voilà, ça sera la fin d'un des très grands lieux du cant surtout, hein. Voilà.
Juste pour, je crois aussi qu'il y a un grand respect, qui n'était peut-être pas le cas il y a 20 ans, entre les flamencos de l'autre côté des Pyrénées et de ce côté-là. Enfin, Tony, tu peux peut-être confirmer ou infirmer ce que je dis, mais il y a de plus en plus d'échanges entre vous, entre les artistes de là-bas et les artistes d'ici. Alors, c'est aussi peut-être parce qu'il y a de plus en plus de festivals, vous vous connaissez aussi parce qu'il y a les disques, parce qu'il y a... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Et en fait, ce que je propose, c'est qu'on va écouter Tony, puis moi, j'enchaînerai en lisant un texte, mais voilà. Si tu veux improviser sur ce que je vais lire, il n'y a pas de problème. Hein ? Il était arrivé à Santa Ana devant la cervecería Alemana.
Les noms des anciennes rues étaient décrochés, il y avait l'odeur de loupé sur le cuir de la Buick, le sang de Linares sur la poignée, et au bar Chicote, de l'autre côté de la porte, le temps comptait la vie et la mort dans la vulve de l'horloge Coppel. La Valencia ressemblait à une fumerie de fleurs sèches où ses lèvres se refermaient sur le goutte à goutte de la manzanilla fina. La bakélite du téléphone venait le chercher. Il lui fallait manger dans la main de nacre des señoritos avec cette douleur. Une saignée d'histoire dans la comète des barricades flamenca qui se lisait dans la saveur perdue de son regard. Ces juergas de riches, c'était la bagarre d'une vie en piste où il était sans un fil d'or ou d'argent. Gabrieles Villarosa, il savait que la porcelaine d'essence se mue en fibres quando se canta por cañas, ce lait de poitrine lancé dans le pas de celui qui est venu de loin jusqu'ici. Aujourd'hui, sur cette photo de Pepe Lamarca, Raphaël a trois ridelles qui arruguent le parchemin tavelé apparu dans l'ourlet de sa peau. Il est là dans son manteau de mythe, il attend assis sous l'enseigne Burger King, il soupire de son ventre vide, monte la palpitation qui lui rappelle qu'être cantaor, du parfait frisson est parfois la chose la plus décisive du monde. Rafael Romero est mort le 3 janvier 1991. Se fue para el otro mundo en la más triste soledad. Juana la del Pipa traverse la calle Circo. La nymphe de son intestin grêle frémissant les anneaux de la chaîne qui entrave ses ancêtres dans le froid des calabozos du pénal del Puerto, si noir qu'on n'y voit pas ses mains, se réveille parfois. Elle les chasse en riant avec la guassa des matriarches habitués aux effronteries des vendeurs de beignets. Une paire d'heures plus tard, elle descend la Plaza de Toros de Jerez, ses ongles cassés d'avoir serré le bois de l'éventail fiché dans son corsage. Elle soupire. Parce qu'il fait chaud? Parce qu'aujourd'hui, Raphaël et Paola sous Raphaël auraient pu voler au dieu l'équation d'une moitié de Véronique? Il n'en a rien été. Cosas de sous Raphaël. Juana pourtant s'était signée du bout de ses doigts de lavandière trempée dans l'eau bénite des flaques de la Solea por Bulería. « Il n'y a pas de mauvais destin, pense-t-elle, comme le lançait ma mère en saisissant le volant de sa robe déformée par son abdomen plein de moi. » Juana plisse les yeux. Près de la canne de Luis El de la Mahora, elle avait dansé, caressé les planètes. Au milieu des graines de tournesols éparpillées, tu te souviens, Juana ? Et elle se souvient, et froisse un poids de sa jupe, se redresse, la nitroglycérine d'un toro de Veragua dans les reins. Anda, Juana, carrosse colossal, anda, Juana, anda! Chante le précipice et repart vers Santiago. Que les gitans et les payos t'écoutent. Que la sombre migale dans ta bouche tisse avec les tientos que tu tires du sac de ta puissance un temps précis de soleil nucléaire. Que ce soit fort. Que leur peau flétrisse plus vite. Anda, Juana, anda. Et ne t'arrête pas. va partir. C'est un des matins baveux où se joint à la nuit encore maquillée la salive du jour proche. Le sang de l'Ebrija marche à côté de moi, met la clé et démarre. J'essaie d'arranquer avec cette voix des aurores una bulería pa escuchar, en donnant des coups à compas au centre du volant, en écarquillant les yeux pour me souvenir de José Valencia. Tout à l'heure, dans le bocal de la bonbonne flamenca rue de République. Pour écraser la cervelle du duende, lui, José, tapait du plat et du poing de sa main gauche sur le mostrador de la Peña. Les filles éblouies derrière avaient cessé de glacer les verres en tube ou ambrer le whisky. Le Tana avait lancé la sarabande. Ses réfractions de vérité cognaient les murs. Et le Tana, un gitan de la Vienne, si modeste que son cousin lui en veut de ne ramener la suie de sa gorge que trop peu, souvent au comptoir, seulement à des heures impossibles, où les payos qui proposent des contrats du parné sont couchés ou morceaux. À l'autre bout de la pièce, une nouvelle voix s'est cherchée la vie. C'était El Trini, derrière ses lunettes en cul de chopine dans la direction du maestro, comme l'étoile d'une vitre frappée par un lanceur de pavés. El Trini a visé juste et fort. José ne pouvait que lui rendre hommage, lui dire la pareille, le défier à son tour. José, autrefois Joselito, aujourd'hui José, de los Valencia de Lebrija, irrigué par le jus des raisins de Jerez, celle de son oncle Luis, de Manuel de Paola, de Samerana, de la Rumbia, des autres. Le chariot des lettres tordues dans le filin de ses lèvres, porté par nos coups de olé, prouvait que le cœur est un muscle. Son chant, c'était un coup de bâton sur la mer rouge. Quand il le referma, nous fûmes engloutis. Le moteur ronronne en bas dans le jardin, je me suis garé, je devrais aller me coucher, je n'ai plus une seule copla prise dans le larynx. Alors quoi ? Rien, je reste à savourer cet instant, le moment où le primo du Tana m'a pris le bras et susurré. Je crois que nous avons aperçu la terre promise. Ah non, il y avait du chatoiement sur les rétines après un tonitruant oletou. Tu t'étais levé, un peu d'air à tes doigts, un peu d'épices chippées à la colle du ciel sous tes pieds. Tron, 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 les tourments contigo, Chano, n'étaient que des nuages sales. Tu incrustais dans chaque pore ce qu'il fallait pour caresser la peur. Tu dansais, tu mettais ce coup de patte qui sentait l'allumette pétrie d'incertain. Chano, des plus humbles éclats de ta vie, tu as taillé des crayons. Tu les laissais courir sur la rosée des champs que tu ramassais avant la bienveillance du soleil, avant qu'il ne frappe la pierre du quai, l'acier, le clapotis sur les coques, la vapeur et le sommeil de la papera et d'Aurelio. Chano, le corps comme un calice de trèfle, un accroc dans une écharpe avec ta bouche de bonbons sucés. On te disait l'elfe, le follet Chano. Te voyais des élytres séraphiques, insectes géomètres et crépuscules de Cadiz, funambules avec un fil d'ivresse. Hey. Allez.